France Inter. Le 6-9 de l'été. Amélie Perrier.
Et monter le son, les plantes aiment la radio et nous on adore les conseils d'Alain Baraton. Bonjour Alain.
C'est très gentil, bonjour Amélie, bonjour à tous.
Vous nous emmenez à Amboise aujourd'hui et quand on dit Amboise, eh bien on pense direct au château d'Amboise.
Eh oui, l'un des plus célèbres châteaux de la Loire, mais Amboise c'est aussi le Clos Lucé, la demeure de Léonard de Vinci et le château Gaillard, un domaine d'exception qui était tombé dans l'oubli mais qui après une restauration qui a duré 5 longues années a retrouvé ses lustres d'antan. Marc Lelandais, le propriétaire, a en effet consacré du temps, beaucoup de temps, mais aussi beaucoup d'argent pour planter des centaines d'arbres et arbustes. Pour le jardin et pour le château, il a employé 300 ouvriers et 50 artisans d'art. C'est considérable. Parmi ces artisans d'art, des ferronniers, tailleurs de pierre, sculpteurs, maîtres verriers, céramistes, couvreurs, fontainiers, botanistes et jardiniers. Il se dit même qu'il a engagé des sourciers.
Alors, il y en a un qui aimait beaucoup cette belle propriété, c'était Charles VIII.
Et oui, si aimé qu'il se plaisait à dire qu'il ne manque qu'Adam et Ève dans ce lieu merveilleux pour en faire un nouvel Éden. Ici, Charles VIII a su faire preuve d'innovation, on peut même dire d'audace, pour créer le premier jardin en France de style Renaissance, y installer les premiers orangers jamais plantés dans un parc royal, et bien sûr construire la toute première orangerie.
Et le jardin, Alain, est l'œuvre d'un moine napolitain hors du commun, Don Pazzello de Mercogliano.
Et oui, cet homme d'église est alors, et à juste titre, considéré comme le plus grand jardinier de son époque. Alors, ici même, il va d'abord construire de hauts murs pour protéger les plantations, je cite un terme d'époque, de la rapine et de la malice. Et il va ainsi favoriser un microclimat propice aux espèces exotiques comme les agrumes et les pêcheurs. Amélie, pour que vous le sachiez, à Versailles aussi, Jean-Baptiste de la Catini avait mis en place ce système prôné par Pazzello de Mercogliano. J'ai des problèmes avec les langues étrangères, voyez-vous, pour créer justement au potager du roi eh bien, des galeries qui reconstituent effectivement des microclimats. Alors, cet homme, ce moine napolitain, va aussi créer des parquets qui préfigurent les futurs parterres à la française. Et ce sont des parquets de forme géométrique qui réincarnent les quatre feuves du paradis. Le vin, l'eau, le miel, le lait, et ce autour, bien sûr, de la fontaine dite de Jouvence. Il va aussi créer une perspective axiale qui est réalisée pour la première fois devant le château et qui crée ainsi une visuelle nouvelle. Le résultat est si réussi que le jardin, et c'est un privilège rare à l'époque, devient royal dès l'année 1500.
Alors, Don Pazzello est un grand jardinier, il est aussi un botaniste et un créateur de plantes, Alain.
Il va en effet créer une nouvelle variété de prunes qu'il baptise en l'honneur de l'épouse de François Ier, la reine Claude. C'est lui qui va donc créer,
la reine Claude.
Alors le roi aime tellement son jardinier qu'il lui offre sa demeure contre un bouquet de fleurs d'oranger annuel. C'est quand même assez extraordinaire. Don Pazzello meurt après avoir été l'architecte de jardins royaux de 3 rois de France, Charles VIII, Louis XII et François Ier. Et c'est justement l'un de ces jardins que je vous propose de visiter. C'est le château Gaillard qui est situé à Amboise, dans le département d'Indre-et-Loire. Et il est ouvert depuis peu et pour la première fois au public, c'est un véritable joyau. Et c'est toujours intéressant, je crois, de découvrir des jardins qui ont fait l'objet de restauration, parce que j'aime l'idée qu'on emploie avec intelligence les métiers d'art qui ont fort besoin d'être soutenus.
Alors on va courir à Amboise, merci Alain Baraton. Et les questions de nos auditeurs. Alors je vais commencer par cette question que vous pose Pauline. Comme tous les ans, Pauline, elle a guetté les cerises et comme tous les ans, eh bien, les oiseaux ont été les plus forts. Comment on peut lutter?
Je crois qu'on ne peut pas lutter contre les oiseaux et c'est très bien. On ne va quand même pas installer des filets sur le cerisier. On a tous vu des petits oiseaux qui viennent, qui se mettent les petites pattes et qui ne peuvent plus s'envoler et qui ensuite vont mourir dans des conditions épouvantables. Alors il paraîtrait qu'on pourrait suspendre dans l'arbre des tranches de poisson de type harengsort. Vous parlez d'un goût et vous parlez d'un esthétique pour
oui,
les voisins.
Ça gâche un peu la cerise.
Tout
quand
à
même.
Fait. Certains vont mettre des CD, vous savez, des lasers pour qu'il y ait des reflets. C'est agréable, ça empoisonne tout le voisinage. Vous avez des reflets dans les yeux du matos. Aujourd'hui, il y a un souci. Les oiseaux sont en train de disparaître. Alors si on a la chance d'avoir chez soi des petits chardonnays, si on peut de temps en temps observer le manège d'un bouvreuil, on contemple le spectacle. Alors il paraîtrait aussi que les oiseaux en fait n'ont pas une grande passion pour la cerise, mais pour l'eau qu'il contient. Alors peut-être qu'il suffit tout simplement de disposer au pied du cerisier quelques petites écuelles remplies d'eau, non pas pour empêcher le pillage, mais au moins pour en limiter les conséquences. On partage ainsi, 50% de cerises pour les oiseaux, 50% pour soi en y mettant un petit peu d'eau au pied.
On garde les oiseaux donc, et est-ce qu'on garde aussi les insectes? Là c'est la question de Mylène, elle nous demande est-ce que les hôtels à insectes, on en voit de plus en plus, sont vraiment efficaces?
C'est très à la mode, ouais. On en voit partout.
Ça ressemble à une petite niche, c'est
oui,
ça?
Oui, alors il y a des rondins, il y a des trous. Ouais. Et ben, c'est très discutable pour la raison suivante, parce que la cohabitation entre certains insectes n'est pas très agréable, voyez-vous. Vous avez beaucoup d'insectes qui ne se supportent pas, alors qu'ils se font la tête mieux, qu'ils se boulottent. Et je ne suis pas sûr que vouloir faire cohabiter au même endroit différents insectes soit vraiment efficace. Je crois surtout qu'au lieu de construire des hôtels à insectes, peut-être faudrait-il commencer à éviter de détruire l'habitat naturel de ces mêmes insectes. Parce que souvent, on se donne bonne conscience. On achète une propriété, on ravage pratiquement tout sur 15 hectares, mais on a installé des hôtels à insectes. Alors respectons l'environnement, arrêtons de dépendre des produits qui tuent les petites bestioles. Ça fera venir les oiseaux, d'ailleurs. Ouais. Le problème, c'est que s'il y a des oiseaux, il n'y aura plus de cerises non plus. Oui. Donc c'est un peu compliqué tout ça.
Louison nous demande, les navets que je récolte petits sont trop durs pour être mangés, pourquoi?
Alors, quand vous avez soif, Amélie, vous prenez un verre d'eau et vous buvez.
Exact.
Et vous avez, je crois, vous êtes comme beaucoup de personnes qui nous écoutent, vous avez une bouteille d'eau souvent en été à portée de la main et vous vous désaltérez régulièrement. Imaginez un instant que vous ne buviez pas du tout de la journée et que vous mettiez demain, voire après-demain, à boire d'un seul coup 2 à 3 litres d'eau. Je suis pas sûr que votre organisme apprécierait beaucoup. Les navets, eh bien oui, les navets sont des êtres vivants, ce sont des
plantes. Vous me comparez à un navet, là?
Non,
c'est rapport à mon teint? Non, d'accord.
Non, pas du tout, je ne me permets pas. Mais c'est que le navet est délicieux.
C'est vrai.
Est un légume qui a été décrié, mais je vous assure que les tout petits navets cuisinés par les grands chefs, ça peut être merveilleux. Eh bien, les plantes ont besoin d'eau régulièrement. Et quand vous avez pris le temps de semer des navets avec amour dans une terre qui lui convient, quand vous avez tout fait pour qu'il soit merveilleux, mais que vous n'arrosez pas, eh bien, le navet durcit et prend un goût désagréable. Donc, on n'oublie pas, comme pour vous, de donner à boire régulièrement aux légumes.
Et on reste entre le potager et la cuisine avec cette question de Marceline. Que pensez-vous du goutte-à-goutte pour les tomates, cette fois, du jardin?
Moi, je crois qu'il faut être raisonnable. Le jardin, le plaisir du jardin...
Pardon. Un petit verre d'eau, peut-être.
Comme du chat. Non, mais c'est le problème en été, voyez-vous, c'est la climatisation.
Ah, c'est l'enfer.
Et ça fait de gros dégâts sur les organismes vivants. Et je suis, moi aussi, comme la plante.
Alors faut-il préférer le goutte à goutte, même vivant, pour le Alain Marathon?
Voilà. Alors, le goutte à goutte, c'est pratique éventuellement quand vous partez en vacances, oui. Ça vous permet d'avoir de l'arrosage sur vos pieds de tomates, même en votre absence. Mais j'aime bien l'idée du jardinier qui se réveille le matin, qui regarde aux tomates. Vous parliez tout à l'heure de parler aux plantes. Mmh. Eh bien, oui, les plantes, je crois, pour qu'elles soient belles, ont besoin d'être aimées. Et elles se sentent aimées quand on leur donne de l'eau. Alors, vous allez me dire, on rajoutera un petit peu de violon, ce serait encore beaucoup mieux dans ce que je dis. Mais de temps en temps, le jardinier doit être dans le jardin. Quand on arrose un pied de tomate, on ne fait pas que lui apporter de l'eau. On regarde si tout va bien, on supprime une feuille qui éventuellement touche la terre, on regarde s'il n'y a pas des petites bestioles qui commencent à faire des dégâts. L'arrosage, c'est pas seulement une activité, j'allais dire, de jardinage, c'est une activité psychologique envers le végétal.
On a quelques secondes, Alain, pour terminer. Pour un coup de cœur, c'est un livre, cette semaine.
Oui, j'adore. Le jour où Picpus a disparu de Sven Nordvisk, c'est aux éditions Plume de Carotte. C'est tout simplement un dessin merveilleusement, réalisé. Ce sont les aventures de Petson et Picpus. Et en fait, c'est la ferme, il y a les poules, il y a la forêt, il y a les animaux, il y a les chats. J'adore cette bande dessinée. L'homme Sven Nordvisk, je prononce très mal,
pas mal.
C'est imprononçable,
non, pas mal.
A beaucoup de talent.
Merci beaucoup Alain Marathon, la main verte sur France Inter.